Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où je reçois comme chaque semaine l'auteur d'un essai de philosophie qui vient de paraître. Avec aujourd'hui de l'horreur en plus de la philosophie. Plus précisément une phénoménologie de l'horreur. De The Thing de Carpenter à La Mouche de Cronenberg aux côtés de Levinas, Lovecraft et Merleau-Ponty. C'est le menu de cette émission qui risque de vous donner des hauts le cœur. Allez en route sur les chemins de la philosophie. Partons à la recherche de l'origine. Remontons le temps. Au début, quand la vie humaine n'existait pas encore.
A planet in the solar system, dwarfed by darkness, the planet emits a distress signal. In the form of an evolutionary accident termed life. On this green and blue orb, a slow terraformation of the alien landscape will begin. Deep ravines cut into the surface of the planet, a boundless ocean now separated by continents, on which cities and forests intertwine. Beings will colonize this unit of space in the cosmos, transforming the planet into an habitable world. From nowhere, further generations of living animals will come into existence.
Une planète au milieu du système solaire. Dans les ténèbres, l'orbe émet une alerte signalant un accident évolutionnaire que l'on appellera plus tard la vie. Dans ce paysage étranger, un lent processus de terraformation est sur le point de commencer. De profondes ravines creuseront rapidement la surface de la planète, devenus bientôt de vastes océans sur lesquels dériveront plusieurs continents, envahis de forêts et de cités. Des êtres vivants viendront coloniser cette minuscule sphère perdue aux confins du cosmos et la transformeront en un monde habitable. Nés d'un rien, des générations d'animaux y verront le jour et de multiples êtres vivants y établiront leurs fondations, cultivant la terre et se protégeant à l'aide de structures qu'ils appelleront leur foyer. Bonjour Dylan Trigg.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Et bienvenue à Xavier Combe à vos côtés qui va assurer la traduction pendant cette émission. Est-ce que vous reconnaissez la musique que nous sommes en train d'écouter, Dylan Trigg?
Oh, very much so, yes. It's the very iconic soundtrack by Ennio Morricone.
C'est la BO du film The Thing de John Carpenter, une BO de Ennio Morricone.
Exactement, et The Thing, c'est aussi le titre de votre livre, sous-titre Une phénoménologie de l'horreur, un ouvrage passionnant parce que qui aborde un sujet rarement abordé en philosophie, à savoir l'horreur. Et je tiens à le préciser d'emblée, oui, il s'agit d'un livre de philosophie et même de phénoménologie. Qu'est-ce que vous entendez par là, Dylan Trigg?
Well, so the motivation for this book really stems from a frustration.
J'ai voulu faire ce livre parce que j'étais frustré par la façon dont on a compris et interprété la phénoménologie au cours des 10 ou 20 dernières années. En effet, d'une part, cette frustration résulte de la phénoménologie elle-même, la façon dont elle est pratiquée, particulièrement dans la tradition anglo-saxonne, notamment en Amérique du Nord, où il y a un type particulier de phénoménologie qui est traité, phénoménologie marquée par un sens d'intégration, met l'accent sur l'harmonie, l'unification, une espèce de vénération de l'expérience vécue. Et d'autre part, il y a une sorte de caricature de la phénoménologie développée dans des critiques récentes de la phénoménologie, notamment dans le cadre du réalisme. Le but étant de m'éloigner de cette caricature de la phénoménologie et de la critique qui en est faite, il y a eu l'émergence de mouvements dans la philosophie contemporaine continentale qui se préoccupe de l'image du monde devant nous et du monde après.
Donc,
le passé et le futur. De quoi s'agit-il au total? Il s'agit du corps. Et ce qui est négligé dans la recherche phénoménologique, paradoxalement, c'est le type de corps, la nature du corps. Parce que le type de corps que l'on retrouve dans cette forme de recherche, dans les cercles merleau-pontiens en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est une sorte de vénération du corps comme étant une sorte d'objet, objet d'harmonie, si vous voulez. Donc il y a des exemples qui surgissent et ressurgissent dans la recherche phénoménologique, le corps comme étant une figure de danse, la façon exemplaire de la façon dont on peut appréhender le corps. Donc moi, je veux m'opposer à cela, je suis frustré. Et à mon avis, on néglige trop la façon dont le cœur, c'est non seulement ce qui est vécu, ce qui est personnel et personnalisé, mais aussi ce qui est étranger, anonyme, différent, une espèce de matérialité qu'il faut former, une sorte de matière première qu'il faut former pour en faire un corps humain. Autrement dit, peut-on imaginer le corps avant l'humanité? Peut-on imaginer le corps humain avant l'existence de l'être humain? Et dans quelle mesure le corps, comme étant un objet vécu, cesse-t-il être identifiable avec moi?
Ce sont des questions absolument passionnantes. Hein. Comment imaginer un corps avant l'être humain et comment le corps peut-il exister, subvenir sans moi? Et ce qu'il y a de vraiment passionnant dans votre travail, Dylan Trigg, c'est que pour poser ces questions qui sont, vous l'avez bien dit, en phase avec les querelles philosophiques les plus contemporaines, entre la phénoménologie d'un côté et le nouveau réalisme de l'autre. Vous citez notamment Quentin Meillassoux dans votre ouvrage, grand philosophe français qui est chef de file de cette école d'un certain réalisme. C'est que pour répondre à ces questions-là, à cette frustration que vous nommez, vous faites appel aux films d'horreur. J'ai cité The Thing de Carpenter, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On parlera de Cronenberg et d'autres encore. Comme si finalement, ce que vous cherchiez à montrer, ce qui était absent de la philosophie, était présent dans ces films d'horreur-là. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Oui, ce que vous dites est juste. L'horreur génère une perception possible de la nature et des limites de la nature corporelle du corps humain et de la matérialité qu'ont les êtres humains face à leur corps. Par exemple, dans un film comme La Mouche de Cronenberg, on voit une analyse très claire et formidable de la façon dont la subjectivité humaine, telle qu'elle est constituée et définie par l'appareil corporel, donc cette sensibilité corporelle, est assujettie à de nombreuses influences. Donc il y a par exemple un récit exagéré où on voit un chercheur scientifique qui mène une expérience pour inventer une machine pouvant réaliser de la téléportation. Mais comme on le sait, une mouche entre dans la machine, il y a un phénomène d'épissage, il en résulte un organisme hybride. Donc, cette mouche hybride, et par la suite, dans le film, il y a cohabitation ou co-inhabitation de ces deux éléments dans le corps. Et donc, évidemment, le chercheur lui-même est habité par cela. Et donc, cette idée, à mon avis, est extrêmement riche. Et ça nous montre quelque chose qui est négligé dans la phénoménologie. Il peut y avoir des temporalités conflictuelles et des modes de corporealité conflictuelle dans un seul espace, avec évidemment des implications existentielles très profondes.
Écoutez la transformation de Seth Brundle, hein, le jeune biologiste héros du film La Mouche de Cronenberg, en plein processus de transformation. Il va devenir un insecte, une mouche, et pour l'instant, eh bien, son ordinateur ne le reconnaît plus.
I want a disc. Give me preliminary integration.
Voix non identifiée. Passée en commande manuelle.
Une relique, voilà ce que tu es, il faut le dire. Un vestige archéologique redondant. Le produit d'une ère disparue, d'un intérêt uniquement historique. Tu as raté de grands moments. Pourquoi tu es là? Pour rattraper le temps perdu?
Je voulais...
Mes dents commencent à tomber. L'armoire à pharmacie est devenue le musée Brundel d'histoire naturelle. Tu veux le visiter?
Non.
Vous dites dans votre livre, Dylan Trick, à propos de cet extrait, qu'au-delà d'une désintégration de l'aspect personnel de Brundel, la perte de la voix a une conséquence beaucoup plus troublante qui concerne sa personnalité elle-même. Il faut de constater que même à la radio, le son de cette voix est glaçant. On entre déjà, on est à quelques centimètres du passage qui va nous conduire vers le sentiment d'horreur.
Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est frappant dans ce genre, c'est qu'il y a là non seulement une amplification viscérale dans les films de Carpenter ou de Cronenberg, voire de Polanski, mais on voit tout cela dans l'expérience au quotidien. Le vieillissement, la maladie, même le jet lag sont des phénomènes selon lesquels le corps décrit qui nous sommes. Autrement dit, le corps nous a un petit peu quittés pour devenir autre chose.
Et à partir de cette analyse, vous montrez comment la dissociation entre le corps d'un côté et la personnalité de l'autre est un point de départ que vous élisez comme celui de l'approche phénoménologique que vous allez proposer. Alors, je vous pose la question, parce que c'est celle qui accompagne tout votre livre. Comment peut-on faire une expérience à partir d'un corps qui n'est pas le nôtre, puisque c'est ça, au fond?
I think one way in which this idea is feasible is precisely
because phénoménologie begins with a strong, d'une façon, justement, parce que la phénoménologie par d'un engagement envers l'idée qui veut que le corps nous appartient. Donc nous ne sommes pas on n'est pas chez Descartes ou de John Locke, où on peut prendre le corps dans son entièreté ou en prendre un organe et en retirer un organe sans que cela n'ait d'impact sur l'identité. Au contraire, nous sommes liés à notre corps avec un lien très épais, et donc, lorsqu'émerge l'horreur, nous avons un cauchemar phénoménologique, en quelque sorte, parce qu'on a l'expérience de la dualité, l'expérience du corps comme étant autre chose. Ce n'est pas un dualisme ontologique dont je vous parle, où il y a véritablement une séparation entre moi-même et mon corps, mais on vit cela, et à mon avis, ça c'est encore plus terrifiant, c'est beaucoup plus de l'horreur radicale, ça, justement parce que ça nous fixe un cadre phénoménologique avec ce sens intime du corps comme étant le sien.
Mais comment peut-on vraiment faire cette expérience? Parce que vous avez une description assez amusante du corps dont nous héritons au moment de la naissance, comme étant une espèce de chose qui nous vient d'ailleurs et qui nous est absolument étrangère et qui est un peu immonde d'ailleurs. Et le bébé n'a pas l'état de conscience suffisant pour faire cette expérience-là. Alors, hormis dans les films d'horreur, est-ce que c'est une expérience que nous pouvons vraiment faire réellement?
Moi, je pense que oui.
L'anxiété,
l'angoisse nous rapproche de l'horreur, par exemple. À titre d'illustration, pour penser à l'angoisse, on peut prendre la perte de signification référentielle, chez Heidegger, par exemple. Et sinon, vous avez la façon plus corporelle pour appréhender l'angoisse comme étant l'invasion du corps par une série de symptômes vécus comme étant de l'ordre de l'étranger, des objets qui viennent d'ailleurs, et évidemment on ne peut pas rationaliser tout cela. Mais bien entendu, le problème, c'est que ces expériences-là sont trop facilement consolidables dans un sens unifié du soi. Dans l'agoraphobie, par exemple, l'être humain ne peut pas traverser un pont, ne peut pas monter dans un bus ou aller dans un supermarché. Ça, ce sont considérés comme des interruptions d'une vie intégrée, unifiée, organisée. Donc, trop facilement, il y a ce problème qui veut que il y a une harmonisation trop facile entre moi-même et mon cœur. Donc, le cinéma, lui, nous donne un accès privilégié à cette expérience parce que, évidemment, en l'espace de 90 minutes ou 2 heures, on a toute cette ambiance lors de laquelle on peut réfléchir à la façon dont le corps peut se présenter à nous sous différentes formes, même si ces formes remettent en question la façon dont on appréhend le corps de manière non cinématique dans notre approche directe du quotidien.
Le cinéma, mais aussi la littérature, parce que vous y faites une place aussi dans votre livre. Voici un cas particulier pour nous aider à répondre à cette question. Comment est-il possible de faire l'expérience de l'étrangeté de notre corps, ou même de la dissociation entre notre conscience et notre corps qui deviendrait étranger ? Eh bien, voici un extrait de « Dans l'abîme du temps » de Lovecraft, que vous citez dans votre livre. C'est le professeur Nathaniel Pisley qui a perdu la mémoire suite à un malaise étrange. Alors plus tard dans le livre, on apprendra qu'en fait, son corps a été habité par quelqu'un d'autre, ce qui est absolument effrayant. Voici la description que lui-même fait de cet accident. C'est Georges Clès, le comédien Georges Clès, qui prête sa voix au narrateur, donc Nathaniel Pisley.
C'était le jeudi 14 mai 1908 que survint mon étrange crise d'amnésie. Elle fut brutale et imprévue. Néanmoins, je me souvins par la suite, j'avais eu quelques heures auparavant des visions confuses qui me troublèrent fort en raison de leur caractère insolite et qui devaient constituer les symptômes précurseurs. Je souffrais d'une violente migraine et j'éprouvais la singulière impression que quelqu'un tentait de s'emparer de mes pensées. Vers 10h20 du matin, pendant que je faisais les premières années un cours sur les différentes tendances passées et présentes de l'économie politique, je vis des formes étranges danser devant mes yeux et je crus me trouver dans une salle bizarrement décorée. Mes paroles et mes pensées s'écartèrent du sujet traité et les étudiants comprirent qu'il se passait quelque chose de grave. Puis je perdis connaissance et m'affaissai sur mon fauteuil, plongé dans une torpeur dont personne ne put me tirer. Il s'écoula 5 ans, 4 mois et 13 jours, avant que je retrouve l'usage normal de mes facultés et une vision juste du monde. Quand j'eus constaté l'échec de tous mes efforts pour dissimuler mon amnésie, je la reconnus franchement et me montrai avide de renseignements de toute espèce. En fait, les médecins eurent l'impression que je ne m'intéressais plus à ma personnalité véritable dès l'instant où ma perte de mémoire fut acceptée comme une chose naturelle. Ils s'aperçurent que je possédais, chose inexplicable, des connaissances stupéfiantes que je semblais désirer cacher plus qu'étaler. Je me heurtais à un manque de sympathie presque unanime. Quelque chose dans mon aspect et mon langage semblait susciter crainte et aversion chez ceux que je rencontrais, comme si j'eusse été situé aux antipodes de tout ce qui est normal et sain. L'idée d'une horreur secrète en relation avec des abîmes de distance incalculable était curieusement répandue dans les esprits.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, où je reçois aujourd'hui le philosophe anglais Dylan Trigg, qui enseigne à l'université de Dublin jusqu'à aujourd'hui, bientôt à l'université de Vienne, et qui est l'auteur de The Thing, une phénoménologie de l'horreur, paru aux éditions MF. Alors là encore, je vous pose une autre question, Dylan Trigg, pas d'abord sur le fond, vous connaissez la musique que nous sommes en train d'écouter ?
Penderecki is, or I'm trying to think of the piece.
Attendez, c'est quel morceau?
C'est Penderecki, en tout cas, vous avez raison, c'est vous qui l'aviez suggéré. On voit que là, on écoute un texte de littérature et une musique, l'ambiance et les situations propres à l'horreur sont créées indépendamment du film, là.
Yeah, and I think that's one of the things where horror is particularly strong.
Oui, et c'est là que l'horreur est particulièrement forte pour la création d'une ambiance. Et c'est là que l'horreur est à son pinacle. Et c'est tout à fait exemplaire dans The Thing de Carpenter. La motivation, le pouvoir du film, c'est pas tellement l'histoire, le récit. Le récit est tout de même un peu ténu, un peu mince. C'est plutôt dans le génie qu'il y a à créer une ambiance qui nous happe. Et on est dans un lieu. Vous avez ce sentiment du lieu, de l'emplacement, et Carpenter est un maître pour nous faire vivre cela. On a l'impression qu'on prend un mauvais chemin dans ce film. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a des champs de gravité qui nous amènent dans une direction assez effrayante. Évidemment, il y a une prolifération de significations, et en réalité, il y a ce sentiment de localisation, et c'est ça qui est particulièrement troublant.
C'est le cas dans Lovecraft aussi, dans le texte que l'on vient d'entendre.
Yeah, absolutely.
Oui, tout à fait.
You know, what's interesting is that the sort of the affect,
c'est que la qualité qu'on retrouve chez un Lovecraft ou chez un Carpenter ou un Cronenberg, c'est pas une horreur qui recherche l'horreur ou le choc de l'horreur. Non, c'est plus subtil, c'est plus énigmatique. Et cela joue sur nos certitudes intellectuelles, ça joue sur notre désir d'avoir un récit qui ne s'abandonne pas facilement à ce processus de rationalisation. Et bien entendu, l'un des clichés que l'on retrouve chez Lovecraft, c'est que ce n'est qu'à la fin qu'il y a cette grande révélation, et c'est là que le lecteur chez Lovecraft peut, de manière rétroactive, organiser la façon dont le récit s'est déplié. Et ensuite, on peut comprendre pourquoi l'angoisse a été induite avec tant d'horreur dès le début.
Pensez-vous que pour produire le sentiment d'horreur, parce que c'est quand même un sentiment, même si parfois il a une dimension métaphysique, la présence d'un narrateur soit nécessaire? Puisque finalement, nous parlons d'œuvres de représentation cinématographique, littéraire, ou même dans la musique, il y a une forme de représentation de quelque chose. Est-ce que cette horreur peut nous saisir dans l'expérience quotidienne, ou est-ce que finalement, elle ne survient pas que dans des œuvres de fiction où il y a quelqu'un qui met en récit cette expérience?
Non, je ne pense pas que le narrateur soit indispensable. En revanche, il faut préserver une certaine stabilité de l'identité. Et autour de cela, il y a une distorsion, une déformation, ou alors on aborde d'autres éléments, des influences étranges, des composantes qui induisent l'angoisse. Chez Carpenter, par exemple, et ou chez Cronenberg, le pouvoir et la beauté des films résident dans le fait qu'au début, on se trouve dans un univers que nous connaissons bien. Bon, il y a dans The Thing une expérience arctique. Bon, alors, l'Arctique n'est pas connu de tous. Néanmoins, on est dans un monde que nous connaissons et on peut imaginer qu'on pourrait y être soi-même. Et c'est précisément dans ce contexte, dans cette stabilité géographique, qu'on est exposé à une perte de sens. On est confronté à l'émergence de l'horreur. Et ça ne vient pas d'ailleurs, ce n'est pas une source surnaturelle. Non, c'est une arrivée brutal, ce matériau, cette matière première qui vient de l'intérieur. Et cela C'est évidemment le cas chez Lovecraft. Quoique fantastique, ces récits chez Lovecraft se conforment aux lois de l'expérience phénoménologique. Ainsi, c'est d'autant plus terrifiant parce qu'il y a là une existence temporelle et spatiale que nous connaissons, bien que cela, évidemment, soit quand même assez exotique du point de vue intellectuel.
Venons-en à The Thing, quand même, puisque c'est le titre de votre livre et finalement, ce film exprime, cristallise toutes vos réflexions. Pour le dire en deux mots, c'est l'histoire de Blair, le scientifique de l'équipe, qui fait l'autopsie de la chose. La chose, donc The Thing, qui est retrouvée brûlée à l'endroit où l'autre équipe, qui était sur place dans la banquise des Norvégiens, l'avait découverte. Eh bien, dans cet extrait, il va expliquer que la chose arrive à prendre l'apparence de ce qu'elle digère en imitant ses cellules. Écoutez.
Oh my God. Oh. No.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une imitation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir.
Finir quoi ?
Finir son imitation de nos chiens.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de phénoménologie de l'horreur aujourd'hui en compagnie de Dylan Trigg, qui est l'auteur de The Thing, un livre paru aux éditions MF. Et on vient d'entendre un extrait du film de Carpenter, on est encore en train d'écouter la bande originale inoubliable, pour décrire, qui vient prolonger cette expérience à la limite du gore, hein, disons-le, et d'ailleurs le son qu'on a entendu donnait bien à entendre, cette espèce de muqueuse visqueuse qu'on déchire pour faire sortir The Thing, la chose, qui donc a cette particularité d'ingérer ce de quoi nous sommes faits, les éléments de notre monde, en imitant ses cellules et donc de se transformer, l'étrangeté se transforme en déjà connu. On est là exactement dans un processus qui ressemble à celui de la phénoménologie, hein, qui est cette méthode philosophique qui consiste à décrire ce qui est, à s'approprier ce qui est, simplement vient s'introduire cet élément d'étrangeté, et c'est à partir de cette étrangeté que toute l'horreur va surgir, dès l'intrigue.
Oui, c'est fort bien dit. C'est pour ça que je parle de phénoménologie inhumaine plutôt que anti-humaine. Moi, je ne m'intéresse pas à la phénoménologie du nihilisme ou de la négativité pure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce projet de la phénoménologie, mais en traitant bien cette capacité qu'a la phénoménologie à rester ouverte à d'autres éléments plutôt que de s'en tenir à un sujet particulier, à un type particulier de corps. The Thing, de John Carpenter, constitue un exercice extraordinaire de réflexion phénoménologique sur l'existence du soi ou l'existence de la chose. Nous identifions à un certain rôle que nous jouons dans la vie. Le corps revêt un certain type et nous traitons le corps comme étant un objet qu'il faut améliorer ou qu'il faut augmenter comme s'il était extérieur à nous. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Le corps peut nous trahir, il peut nous revenir comme un objet inanimé parfois. Et cela provoque de l'angoisse, de l'horreur dans la relation que l'on a avec son corps. Et cela provoque une angoisse non seulement par rapport à l'expérience du corps comme étant une entité particulière, mais au sein de la phénoménologie elle-même, dans la mesure où la phénoménologie a divergé vers ce récit de sa propre existence.
C'est-à-dire que là, en regardant The Thing, le spectateur fait une expérience assez particulière. Il fait l'expérience de ce que deviendrait sa perception s'il était placé dans un autre corps que le sien. Parce qu'il y a quand même malgré tout un processus presque d'identification qui se produit avec The Thing, encore une fois cette muqueuse horrible et dégoûtante qui fait des bruits effrayants et traumatisants, et je ne parle même pas de ce qu'on voit à l'image. Mais est-ce que l'expérience, justement, l'importance accordée au son et à l'image, devient tellement sensible qu'elle en devient presque réelle et nous vivons quelque chose qui nous serait absolument impossible à vivre autrement?
I think that's absolutely right. And I think also there's a sense in which,
oui, c'est tout à fait cela.
The thing can be seen as a sort of life force, if you like.
Cet objet, cette chose, peut-être comme une force de la vie qui imite les choses pleinement ou partiellement. Donc cela remet en question les limites de l'extension du corps et les limites de l'appropriation du corps. Et là, on a une façon exagérée et amplifiée de la façon dont on peut conceptualiser la vie elle-même. La vie, eh bien, on l'aperçoit avec des formes identifiées, qu'il s'agisse de chiens, d'êtres humains ou d'autres êtres. Mais il y a également une vie qui va au-delà de ses limites et qui donc fait que la vie ne peut pas être réduite à cela. Par ailleurs, certains de ces thèmes sont utiles pour bien comprendre certains thèmes traités dans la phénoménologie, notamment chez Merleau-Ponty, l'affect des implications. S'agissant de notre relation à la préhistoire, une temporalité avant notre existence, et bien tout cela est minimisé. Chez Merleau-Ponty, il y a cette relation étrange que nous avons avec les animaux, avec une espèce de duplicité. Je me vois dans l'animal, l'animal se voit en moi, mais il n'y a jamais de division entre les deux. Nous permettons de vraiment déterminer où se trouve la fin de l'animal et où se trouve le début de l'être humain. Mais Merleau-Ponty ne traite pas les implications existentielles de ces réflexions, notamment parce que Merleau-Ponty est un philosophe de l'intégration, c'est une prédisposition envers l'harmonie. Donc, chez Lovecraft ou chez Carpenter, on peut imaginer des réflexions absentes de chez Merleau-Ponty ou chez, absentes de chez Lévinas. On aborde simplement ces éléments de la phénoménologie sans vraiment y prêter l'attention que ces éléments méritent et sans bien nous faire comprendre comment on pourrait les voir de manière plus spectaculaire, plus amplifiée.
Si ces expériences sont absentes des phénoménologues que vous citez, Merleau-Ponty et Lévinas, on les trouve dans d'autres écrits, et je pense notamment au texte de Freud, L'inquiétante étrangeté, qui décrit exactement, pour le coup, le phénomène dont vous partez pour proposer une nouvelle façon de faire de la phénoménologie.
Oui, chez Freud, on retrouve ça. Il y a un essai magnifique dans lequel il ne revendique pas avoir connu l'étrangeté. Mais en réalité, c'est paradoxal, parce que Freud connaît bien l'expérience de l'étrangeté. Il décrit cela de manière très évocatrice et riche. Il y a chez lui cette analyse formidable du concept. Et en plus de cette analyse phénoménologique très riche de Freud, il souligne le fait que l'étrangeté, ce n'est pas la présentation étrange, comme par exemple des statues de cire ou autres. Non, il dit que nous sommes perturbés par l'existence de ces choses. C'est ça qui l'intéresse. Nos angoisses, nos attitudes sont encore présentes, toujours évidemment à l'aune de ce processus de rationalisation, et nous ne sommes toujours pas sûrs que nos croyances sont bel et bien justifiées au fil du temps, malgré les différentes façons dont on formule l'identité humaine, la civilisation et le corps lui-même.
Nous-mêmes, j'entends nos ancêtres primitifs, nous avons jadis cru réelles ces éventualités. Nous étions convaincus de la réalité de ces choses. Nous n'y croyons plus aujourd'hui, nous avons surmonté ces façons de penser. Mais nous ne nous sentons absolument pas sûrs de nos convictions nouvelles. Les anciennes survivent en nous et sont à l'affût d'une confirmation. Alors, dès qu'arrive dans notre vie quelque chose qui semble apporter une confirmation à ces vieilles convictions abandonnées, le sentiment de l'inquiétante étrangeté nous envahit. Et c'est comme si nous nous disions « Serait-il donc possible qu'on puisse faire mourir quelqu'un par la simple force d'un souhait ? Que les morts continuent à vivre et qu'ils réapparaissent au lieu où ils ont vécu et ainsi de suite ?» Mais pour celui qui, au contraire, se trouve avoir absolument et définitivement abandonné ses convictions animistes, ce genre d'inquiétante étrangeté n'existe plus. La plus extraordinaire coïncidence entre un souhait et sa réalisation, la répétition la plus énigmatique d'événements analogues en un même endroit ou à la même date, les plus trompeuses perceptions visuelles et les bris les plus suspects ne l'abuseront pas, n'éveilleront pas en lui une peur que l'on puisse qualifier d'étrangement inquiétante. Ainsi, il s'agit simplement ici d'un cas d'épreuve de la réalité, d'une question de réalité matérielle. Dans ce texte d'Ilan Trigg, Freud semble dire que les expériences d'inquiétante étrangeté surviennent quand nous avons, par accident, toujours de manière involontaire, accès à un passé, accès à une forme d'existence qui nous précède, qui n'est pas la nôtre et qui pourtant nous constitue. Et dans votre livre, vous affirmez l'existence de ce passé immémorial qui peut ressurgir par traces. Et c'est une expérience qui est sans doute bien réel, Freud dit bien qu'il s'agit de réalité matérielle, et qui pourtant semble nous faire basculer du côté du mysticisme.
Oui, merci de cette très bonne formulation. Et l'un des affects les plus importants des dimensions horrifiques, c'est la notion temporelle de l'appréhension des choses. Nous percevons notre corps, et notre corps est habité par différentes temporalités. Donc, d'une part, il y a ce sentiment habituel d'être qui on est, alors qu'on a une capacité à mener un certain nombre d'actions dans le temps, et cela est confirmé étant donné ce que nous percevons de notre soi. Et nous avons une mémoire épisodique d'événements que nous avons vécu, notamment dans l'enfance, ce qui crée cette façon dont nous voyons exister au fil du temps. Donc il y a différentes échelles de temps en nous, et cela se synthétise, se résume dans le sentiment de comprendre qui nous sommes. Cette caractérisation, on la retrouve dans la phénoménologie, notamment chez Merleau-Ponty, idée selon laquelle on existe dans la course course du temps et nous arrivons à nous intégrer dans le présent et on arrive à se projeter vers l'avenir. Mais il y a un autre aspect à cette temporalité qui est moins évident, bien qu'en soi, cela soit intégré dans la structure de notre corps. Par exemple, prenons les battements du cœur. Alors, ce n'est pas par choix que nous décidons des battements de notre cœur ou de notre rythme cardiaque. C'est quelque chose qui nous habite, évidemment, et cela s'inscrit dans une linéarité temporelle qui est en dehors de notre propre expérience. On ne peut pas améliorer, augmenter ce rythme cardiaque sans qu'il y ait de conséquences physiologiques. C'est grâce à ces battements de cœur que nous restons vivants. C'est grâce à cela que nous existons et le rythme du corps contribue à ce sentiment du soi et ça nous maintient en vie, mais il y a une espèce de confiance que nous prêtons au fait que ce corps, bien qu'étant habité par nous, n'est pas à nous. Donc il y a ce sentiment d'étrangeté, il y a cette structure physiologique dont on dépend et à qui il faut faire confiance, mais on fait confiance à un objet dont on ignore un peu la nature. Moi, j'ai pas accès à mes organes, évidemment, et pourtant ces organes me tiennent en vie. Cela est vrai non seulement de la structure physiologique du corps lui-même, mais c'est également vrai pour les organes de ma perception. Comme le dit Merleau-Ponty, c'est pas que moi je vois, c'est pas moi qui ai une expérience de perception, c'est qu'il y a... On voit par mon truchement. Je suis l'organe qui permet à mon moi de percevoir. Donc, alors évidemment, on peut interpréter cela de façon légère, naïve, mais on peut interpréter cela comme étant une division entre là où moi je commence à exister et là où mon corps cesse d'exister.
Oui, vous faites référence sans doute à un texte de Merleau-Ponty qu'on trouve dans la phénoménologie de la perception sur l'existence du corps comme étant une existence anonyme. Il parle d'une marge d'existence presque impersonnelle qui va pour ainsi dire de soi et à laquelle je me remets du soin de me maintenir en vie. On peut dire, dit-il, que mon organisme, comme adhésion prépersonnelle à la forme générale du monde, comme existence anonyme et générale, joue au-dessous de ma vie personnelle le rôle d'un complexe inné. Il n'est pas comme une chose inerte, il ébauche lui aussi le mouvement de l'existence. Et il peut même arriver dans le danger que ma situation humaine efface ma situation biologique. Et ce texte, avec l'exemple de l'organisme, dit cela très bien, cet ancrage dans un lieu qui est le lieu biologique, qui est à la fois absolument contingent, puisque c'est mon corps à ce moment-là, il aurait pu ne pas être là, et en même temps s'inscrit dans une histoire qui me préexiste absolument, et qui fait exister une sorte de passé, alors que ça n'a pas de sens, puisque un passé est toujours mon passé en fonction de mon corps. C'est-à-dire que vous vous situez à un double niveau, la phénoménologie s'est toujours située du niveau du corps, il n'y a de monde que pour celui qui voit le monde et celui qui est dans le monde. Mais vous, vous incluez dans cette tradition phénoménologique classique un autre point de vue, qui est détaché du corps, qui est détaché de la conscience, et qui du coup permet... d'embrasser cette forme de réalité pré-personnelle, comme dirait Merleau-Ponty, ce temps immémorial.
Je m'engage dans cette forme de phénoménologie par rapport à l'existence humaine. Et la phénoménologie fait cela très bien. Si l'on veut faire une analyse phénoménologique de ce qu'est l'angoisse, de ce qu'est la mélancolie ou la dépression, eh bien, la phénoménologie vous donne les ressources pour réaliser cette analyse. Mais en même temps, il y a cette structure paradoxale du corps, cette structure double. On retrouve cela dans les premiers écrits de Merleau-Ponty, mais petit à petit, c'est de plus en plus clair à mesure que sa réflexion évolue. Et en l'espace de 15 ans, donc la carrière intellectuelle de Merleau-Ponty, interrompue par sa mort prématurée, on voit ces mouvements, donc la phénoménologie existentielle, le structuralisme abordé de façon superficielle, puis la phénoménologie ontologique, et donc le corps, il le traite à la fin de ses écrits, et le corps est alors différent de l'analyse initiale. Il y a donc ce langage du corps comme étant d'ordre, d'ordre archéologique, fossile, si vous voulez. Et donc, dans le domaine de la psychanalyse et dans le traitement de l'esthétique, Merleau-Ponty nous explique que la temporalité du corps devient de plus en plus profonde à mesure que ses réflexions évoluent dans sa carrière. Par exemple, dans les premiers travaux sur Cézanne, il dit se débarrasser des attributs, il parle de se débarrasser des attributs du corps et la formalisation du pré-monde pré-humain qui a donné naissance à l'existence par la peinture. Donc là, il y a cet engagement envers une existence en dehors de ce cercle relationnel entre moi-même et le monde. Mais en même temps, il y a cet engagement envers cette idée d'être au monde, qui est un concept heideggerien, où il y a cette façon très épaisse qu'on a de vivre le monde. Mais à mesure que sa pensée évolue, cet engagement et cette vénération de l'expérience vécue comme étant garante de la vérité et de la validité de la phénoménologie devient de moins en moins prioritaire chez Merleau-Ponty. Il remplace cela par un langage conceptuel qui se trouve en marge de la phénoménologie. Mais en même temps, cette réflexion préserve la façon dont le corps constitue une articulation exemplaire de l'analyse que l'on peut avoir de soi-même par rapport à la perception du monde. C'est pour ça que moi je parle de corps inhumain, parce que si l'on parle d'horreur ou d'angoisse ou de d'état liminaire de l'existence, il faut quand même souligner la centralité de l'expérience vécue. Mais cette expérience vécue ne peut être perçue comme étant un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée. Il faut préserver cela justement pour pouvoir déformer, pervertir ce point de départ pour qu'il soit étranger à sa structure initiale pour réfléchir de manière différente à l'expérience vécue au quotidien qui se trouve à la marge, justement, parce qu'il y a cette qualité d'étrangeté.
Vous allez même jusqu'à parler d'un lieu d'existence anonyme qui constitue notre corps.
Cette idée-là, on la retrouve assez fréquemment chez Merleau-Ponty. On la trouve également chez Lévinas. Il y a un parallèle dans ce concept lévinasien de l'Iléa. Donc le « il y a » chez Lévinas. Merleau-Ponty, lui, Heidegger et Lévinas s'engagent envers cette idée d'être au monde. Chez Merleau-Ponty, il y a le fait d'une médiation. C'est le corps qui nous permet d'être au monde. Chez Heidegger, il y a l'intermédiaire qui est l'interprétation de l'humeur. Et chez Lévinas, il y a plus de radicalité. Lévinas n'appréhende pas l'intentionnalité affective comme étant donnée d'emblée. Ça se trouve dans une zone impersonnelle d'existence que Lévinas dénomme le « il y a ». Donc ce n'est jamais pleinement intégré mais dans notre existence, mais ça existe. C'est une sorte de reste de résidu et de temps en temps, c'est manifesté de manière indirecte par le truchement de certaines expériences, dont l'insomnie, la fameuse illustration que l'on retrouve chez Lévinas. Donc dans ces illustrations, ce qu'il y a de fondamental, c'est que le corps devient le lieu où il y a un autre niveau d'existence et de pouvoir être. Lévinas nous parle de l'insomnie en disant pas je ne peux pas dormir, mais ça ne peut pas dormir, vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu là, et c'est justement parce que on part de cette relation affective préexistante que l'on peut déformer la chose et arriver à un concept d'étrangeté. Il nous faut ce concept évidemment pour arriver au sentiment d'étrangeté et évidemment d'horreur.
Et un dernier point, nous arrivons déjà au terme de notre discussion, nous ne pouvons pas évoquer cette étrangeté qui est le lieu d'une horreur qui va survenir, sans s'interroger, c'est ce que vous montrez très bien à partir de votre analyse de The Thing, de Carpenter, mais aussi de Merleau-Ponty notamment, sur l'origine de tout ça. Il y a la question de l'origine qui traverse toute cette réflexion. Dans le film The Thing, c'est évident. Et vous, dans votre ouvrage, vous posez bien la question de ce fossile. Peut-être qu'on pourrait trouver le fossile d'où est tirée toute l'origine du monde, comme une espèce de fantasme auquel peut-être un jour on pourra s'adonner librement.
Oui, ce serait chouette si on pouvait trouver ça. Oui.
Un peu effrayant aussi, non ?
Pretty scary, too.
Scary, absolutely.
Effrayant,
but also
certes.
Inviting and intoxicating.
Mais quand même passionnant.
Yeah, I think this is concerns a recent discovery. I think.
Oui, il y a
eu
une découverte assez récente d'un fossile de Mars découvert en Antarctique. Dans les années 90, on en a beaucoup parlé. C'était l'époque des X-Files. ALH-00401. Et apparemment, il y aurait là des traces d'un ver de Mars qui aurait existé. Bref, peu importe la validité ou l'invalidité scientifique de la chose, mais comment reformuler des questions par rapport au corps ou à la subjectivité? Quelles sont les implications quant à notre façon de voir la vie si on prend ce genre de forme et ce genre de matériaux fossilisés au sérieux? Comment la phénoménologie peut-elle appréhender d'autres formes de vie sans y projeter notre statut de terrien? Pouvons-nous penser en dehors de notre périmètre strictement terrien de réflexion pour envisager la vie comme n'étant pas liée à nous-mêmes et à notre héritage et à notre passé?
Sisters of Mercy, pour terminer cette émission en votre compagnie, Dylan Chung, un grand merci d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui.
Merci beaucoup.
The Thing, une phénoménologie de l'horreur aux éditions MF, et un grand merci et bravo à Xavier Combes qui a assuré la traduction en passant de l'ontologie de la phénoménologie au numéro des météorites et à Carpenter. Bravo et merci Xavier.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Je crois que la chose s'est emparée de notre console, car désormais le générique part avant que je le lance. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Géraldine Mosna-Savoie, devrais-je dire, et vous présenter, car comme tous les jours vous venez à ce micro, nous parler du journal de la philo. Donc, tout ce qui a trait à l'actualité philosophique, quelle actu a retenu votre attention aujourd'hui ?
Alors, ça n'est pas vraiment une actualité philosophique, c'est autre chose, et j'ai une question à vous poser, Adèle.
Allez, pour une fois que c'est dans ce sens,
voilà,
dites-moi.
Des Beatles, lequel préférez-vous, John Lennon ou Paul McCartney ?
Je vous, aux Beatles, un culte qui ne pourra jamais s'abaisser, donc je suis incapable de choisir l'un des quatre.
Bon, peut-être à la fin de la chronique, aurez-vous choisi votre camp ? On va parler de Paul McCartney, car hier est sorti en français une somme qui lui est entièrement consacré et qui veut réhabiliter, après des années d'amour voué à l'insoumis John Lennon, le gentil garçon de la bande, le trop gentil, le trop lisse, le trop normal et donc pas assez rocker, Paul McCartney.
Which do you prefer, mods or rockers?
Don't know, I like any of them. Mockers, I like, I think they're the best. No real preferences.
Why is it, Paul, that you're always described as the most intelligent one of the Beatles? Are you?
No, I'm not. No. Well, John's written a book, you know, so he must be more intelligent than me. Thanks. You've got to be intelligent to write books.
Paul McCartney, ou selon les dires de son ami John Lennon, le spécialiste des chansons de grand-mère et des histoires sur des gens emmerdants qui font des choses emmerdantes, dire tenace de John Lennon, qui ont eu leur succès mais qui, depuis quelques années, ont en fait sensiblement évolué. Et oui, comme en témoigne ce livre du critique rock du Times, Philip Norman, le conformiste du groupe serait devenu le plus cool des Beatles. Mais alors, pourquoi? Depuis quand être conforme et conformiste est-il devenu plus séduisant et intéressant que l'anticonformiste? Paul McCartney aurait-il donc changé depuis toutes ces années, ou est-ce plutôt les années qui nous auraient changé, nous et notre rapport au conformisme? Eh bien, sûrement la deuxième option à écouter John Lennon. Serrago qui disait que tu étais mort était vrai. Depuis que tu es parti, tu n'es plus qu'un souvenir, toujours sympathique, John Lennon. Dans sa chanson How Do You Sleep de 1971, il ne mâche déjà pas ses mots à l'égard de son ancien camarade, ce fils parfait, ce garçon idéal, bref, ce garçon normal que l'on ne remarque pas. Alors pourquoi désormais le remarquer? D'autant qu'il faut le dire, depuis Tocqueville et sa critique de la démocratie qui uniformise et nivelle nos mœurs, nous non plus, on ne mâche pas nos mots contre toute cette normalité, ce conformisme et Paul McCartney. Et c'est bien le paradoxe de cette critique, chacun d'entre nous le dit et chacun se ressemble à force de le dire. Et si alors Paul McCartney avait eu raison? Et s'il avait eu raison de ressembler à tout le monde, malgré tout le monde? Je pourrais penser que les gens en auraient eu assez des chansons d'amour idiotes, mais je regarde autour de moi et je vois que ce n'est pas trop le cas. Certaines personnes veulent inonder le monde de chansons d'amour idiotes, et qu'y a-t-il de mal à ça? Mais oui, qu'y a-t-il de mal à inonder le monde de ces chansons? Qu'y a-t-il de mal à être comme tout ce monde? Paul McCartney en est l'exemple, que l'on commence du coup à suivre, mais Tocqueville pourrait en être l'esprit, car oui, on le cite toujours pour critiquer le conformisme, mais comment oublier que c'est d'abord lui qui en a fait le ciment de toute société, que c'est d'abord lui qui en a dit « Sans idées communes, il n'y a pas d'action commune, et sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. »
Dylan Trigg, who's your favorite? Not philosopher, but from the Beatles. Quel Beatles préférez-vous?
I'd have to say George Harrison.
Harrison.
Et Xavier, quand vous avez donné la même réponse. Bon, je crois que le camp est clairement décidé, Géraldine.
L'outsider, Harrison.
Voilà, c'est ça. C'est toujours l'amour pour le rebelle, celui qu'on connaît le moins. Mais vous parlez de Paul McCartney. Le livre, donc, porte sur Paul McCartney.
Exactement. Et c'est de Philip Norman. Ça vient d'être traduit aux éditions Robert Laffont. Et c'est traduit par Pierre Régnier.
Merci, Géraldine. On aura désormais une belle chanson d'amour dans la tête toute la journée. D'ailleurs, vous me faites penser, Géraldine, que je n'ai pas annoncé la traductrice de votre livre d'Hélène Trigg. C'est donc Audrey Petit-Trigg. Merci à vous, Géraldine, et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeeren, Claire Perryman-Holt, Marianne Chassor, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, vous-même, Géraldine Bosna-Savoie, bien sûr, avec Anis Joudad à la prise de son aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine après Kierkegaard, les jeux vidéo et le procès de Socrate. Ça, c'était le programme du mois de septembre. Et bien, notre prochaine série vous invitera à passer du temps aux côtés de Sacha Guitry, de l'écrivain moraliste, grand lecteur des philosophes classiques, au réalisateur qui se défend d'être cinéaste, du dramaturge né qui ne fait aucune différence entre la scène et la vie, à l'historien de France qui aimait à nous conter Versailles. Dès lundi, vous prendrez goût aux philosophies de Guitry. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires, ainsi que sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations musicales, bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour. Et vous pourrez également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous lundi à 10h donc pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.